France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour les matins d'été. Nous sommes le lundi 21 juillet 2025. Au programme du jour, les violences dans la région druze de Souida déstabilisent-elles le régime syrien? On en parle avec nos deux invités. À 7h15, la question du jour, 100 ans après la naissance de Frantz Fanon, que reste-t-il de sa pensée? Et à 8h50, la page culture au musée Condé de Chantilly, la Joconde des manuscrits est exposée jusqu'au mois d'octobre, un événement très rare. Très bon réveil, vous écoutez France Culture, il est 7h. Le journal, c'est avec vous, Margot Delpierre, bonjour.
Bonjour Astrid, bonjour à toutes et à tous. Vous parliez de Souida, nous irons en Syrie à la rencontre des premiers civils qui ont pu fuir la ville meurtrie. Témoignage à suivre.
L'impopulaire Premier ministre japonais va-t-il rester au pouvoir? Sa coalition de droite a perdu la majorité hier au Sénat. Une élection marquée par la percée d'un parti populiste anti-immigration.
Jusqu'où ira la pétition contre la loi agricole Duplon? Elle a dépassé le million de signatures hier. Un moment historique pour la militante écologiste Camille Etienne. Après une semaine de violences intercommunautaires qui ont fait plus de 1100 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un premier convoi d'aide humanitaire est entré hier à Souida, ville meurtrie, dévastée du sud de la Syrie. De premiers civils druzes ont enfin pu quitter les lieux, mais une poignée seulement, surtout des femmes et des enfants. Ils et elles ont fui après parfois avoir vu leurs proches tués sous leurs yeux. Désormais réfugiés dans des écoles, des bâtiments publics, à la frontière du gouvernorat, ils attendent que la situation s'apaise. Témoignage recueilli par Mohamed Erami.
Dans une salle de classe poussiéreuse d'une trentaine de mètres carrés, une vingtaine de femmes dorment à même le sol. Elles font partie des premières rescapées vivantes de Souida. La plupart ont tout perdu. Jamila, 40 ans, habitait le centre-ville. Elle a vu son fils mourir sous ses yeux.
Mon fils n'était pas un soldat, c'est un simple civil. Il travaillait comme coiffeur, il n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi ces groupes armés l'ont tué? Après ça, ils ont brûlé ma maison, ils nous ont laissés à la rue.
Assise près d'elle, Souad, 83 ans, a vu sa maison devenir un cimetière. Des hommes habillés en treillis militaires, qu'elle ne sait identifier, ont exécuté devant elle tous les hommes de sa famille.
Je pensais que les groupes armés druzes nous protégeraient, mais ils sont venus chez nous et ils ont tué tous les hommes. 4 petits-enfants ont vu leur père mourir sous leurs yeux. 6 hommes ont été tués ce jour-là. Et plus tard, mon dernier fils est mort lui aussi. J'ai perdu au total 7 membres de ma famille.
Ces femmes, traumatisées, sont aujourd'hui cachées par la sécurité intérieure. Elles ne mangent pas, elles ne parlent que peu, par peur de tout ce qui les entoure, même sorties de Souida.
Mohamed Erami, et nous reparlerons en détail de ces violences dans la région druze de Souida avec les invités d'Astrid de Villene dans les matins d'été à partir de 7h40. Pour l'ONU, c'est un coup terrible. L'armée israélienne a donné l'ordre aux résidents de Deir al-Bala dans le centre de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud de l'enclave palestinienne alors qu'il est déjà très difficile d'acheminer de l'aide. Par ailleurs, la défense civile à Gaza affirme que l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens hier en tuant 80. Ils étaient venus chercher de l'aide en différents points du territoire assiégé. Les Japonais votaient hier pour renouveler la moitié des 248 sièges du Sénat. Et résultat, la coalition de droite au pouvoir a perdu sa majorité absolue, comme dans la Chambre des députés. Le Premier ministre Shigeru Ishiba est en sursis. Il semble avoir l'intention de rester au pouvoir, mais le pourra-t-il? On le saura dans les prochaines heures. En tout cas, les voix sont en partie allées agrandir une force d'extrême droite bâtie Sanseto. À Tokyo, les précisions de Karine Nishimura.
En passant de 2 à 15 sièges dans le nouveau Sénat, le parti d'extrême droite Sanseto confirme aux urnes son envolée déjà visible sur les réseaux sociaux et dans la rue. Avec un slogan simpliste, les Japonais d'abord, des propositions démagogues pour la natalité ou le pouvoir d'achat, des diatribes contre l'accueil jugé trop massif des étrangers, le Sanseto a fait mouche, ce qui réjouit sa nouvelle sénatrice Saya, ex-chanteuse arrivée en tête des votes à Tokyo.
Jusqu'au bout, je m'en suis tenue à cette volonté exprimée par le slogan « Les Japonais d'abord ». Je pense que cela a parlé aux électeurs. Alors que les ménages souffrent de la hausse des prix avec des salaires qui stagnent, j'ai le sentiments que nous avons aussi été largement entendus sur notre envie d'agir, notamment via la suppression progressive de la taxe sur la consommation.
Antimondialiste, le Sanseto fédère des jeunes électeurs via les réseaux en clamant le besoin de protéger la nation, ses citoyens et ses entreprises face aux ennemis, espions et influences extérieures. Il agite l'angoisse d'une disparition progressive des vrais Japonais au profit d'étrangers, l'insécurité qui en découlerait et plaide pour une politique nataliste et autoritaire centrée sur la nationalité nippone.
La Chine confirme la visite jeudi à Pékin des dirigeants de l'Union européenne pour un sommet au moment où les deux partenaires commerciaux cherchent à aplanir leurs différends, notamment sur les véhicules électriques. La Chine qui fustige les sanctions européennes liées à la guerre en Ukraine.
7h05 sur France Culture, la suite de votre journal Margot Delpierre. L'organisation des convois est gardée secrète, mais à partir de cette semaine, les narcotrafiquants devraient peu à peu être transférés.
Oui, les 100 plus dangereux seront accueillis dans le quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Un quartier de lutte contre la criminalité organisée, calqué sur les prisons anti-mafia en Italie, créé pour isoler complètement ses détenus. Un régime carcéral très dur, critiqué par des avocats et des ONG qui évoquent le retour de la torture blanche. Anne Fauquembert, comment en est-on arrivé là ?
Quand quelqu'un arrive à s'évader et à faire assassiner à la Kalachnikov des agents pénitentiaires de l'État, il faut changer radicalement les choses, avait déclaré le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en février dernier. C'était à l'occasion de l'arrivée en France depuis la Roumanie de Mohamed Amra, aujourd'hui l'un des détenus les plus surveillés du pays. Selon des éléments de l'enquête, cet homme, aujourd'hui âgé de 31 ans, avait en effet planifié son évasion en mai 2024 depuis sa prison. En fouillant sa cellule, les enquêteurs auraient découvert 9 téléphones. Il conversait régulièrement sur Snapchat, surveillait des points de deal ou commandait sur Le Bon Coin. Snapchat lui aurait également permis de distribuer des missions à des dizaines de complices, notamment en ce qui concerne les voitures volées pour son évasion. Dans ce dossier, près de 40 personnes sont désormais mises en examen.
Après la sidération liée à cette attaque inédite contre des agents pénitentiaires et au-delà de l'enquête, l'État a aussi réagi en proposant notamment un outil carcéral adapté à l'évolution de la criminalité organisée, Anne.
L'idée de créer une première prison de haute sécurité arrive dans le débat public en début d'année et très vite, à l'initiative du gouvernement, ce projet intègre la proposition de loi sur le narcotrafic en cours de discussion au Parlement. Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont votés fin mai, puis validés par le Conseil constitutionnel. Ils s'accompagnent d'un régime d'anonymat pour les agents pénitentiaires qui y seront affectés. Après Vendin-le-Vieil, deux autres prisons se préparent également à accueillir des narcotrafiquants dans le même type d'établissement déjà très sécurisé. Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne sera prêt en octobre prochain et d'ici 2028, un autre quartier pénitentiaire ultra sécurisé verra le jour dans la future prison de Saint-Laurent-de-Maroni en Guyane.
Anne Fauquembert, et ajoutons que plusieurs détenus contestent leur transfèrement. Plus d'1 100 000 signatures, la pétition contre la loi Duplon lancée par une étudiante sur Internet connaît un succès inattendu. Elle a largement dépassé le minimum de 500 000 signatures. C'est l'une des conditions pour demander à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale l'organisation d'un débat en séance publique. Même si le texte a déjà été adopté, mais il n'est pas encore promulgué. Censé lever les contraintes des agriculteurs, il prévoit notamment la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce pesticide interdit en France depuis 2018, mais autorisé ailleurs en Europe jusqu'en 2033. Les militants écologistes, comme la médiatique Camille Etienne, ne s'avouent pas vaincus.
On vit un moment assez historique, je n'ai pas peur de le dire, parce que on est en plein backlash écologique, on est en plein ou dans un moment où les sujets écologiques sont en train de reculer, à la fois dans les faits, mais aussi dans l'attention qui y est portée, même souvent médiatique, et dans la société civile. Et donc là, on voit une espèce de regain, de mobilisation énorme pour un sujet qui est complexe. On parle de pesticides complexes, mais qui vont directement affecter la vie des gens, être responsables de tout un tas de cancers chez les agriculteurs et plus largement au sein de la population. Et donc ce qui se passe est assez fou maintenant. Ce qui est important, c'est de transformer l'essai et donc de faire en sorte que cette pétition serve à remettre à l'agenda cette loi. Et très concrètement, ce qu'on demande très concrètement, c'est qu'elle puisse être abrogée et donc qu'il y ait une proposition de loi ou un projet de loi qui abroge la loi Duplon au plus vite.
La militante écologiste Camille Etienne, des propos recueillis par Lou Bourdi. Nous reparlerons de cette pétition contre la loi Duplon dans le journal de 8h sur France Culture. Des violences ont secoué un quartier de Béziers dans l'Hérault ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, une cinquantaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre, intervenues pour un incendie de poubelle d'hôtels et de voitures. Un guet-apens lié à la lutte contre les stupéfiants, affirme le préfet de l'Hérault. Il s'est rendu sur place. Un policier a été blessé et un appartement incendié. Et puis les vieilles charrues se terminent sur un budget à l'équilibre, voire en positif, annonce son directeur. Le festival breton a affiché complet les trois derniers soirs après le déficit de la précédente édition. Les vieilles charrues 2025 ont rassemblé plus de 260 000 spectateurs en 4 jours. Plus aucun département n'est en vigilance orange ce matin. Météo France prévoit un temps pluvieux sur une large partie de l'Hexagone aujourd'hui et du soleil dans le sud seulement. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Brest, 21 attendu à Paris, 22 degrés à La Rochelle et Belfort, 25 à Marseille. 7h09, les matins d'été avec vous Astrid.
Merci Margot Delpierre pour le journal. On vous retrouve à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité.
Les matins d'été, Astrid de Villaine.
Dans un instant, la question du jour, 100 ans après la naissance de Frantz Fanon, que reste-t-il de sa pensée? Mais avant cela, comme tous les lundis, en route pour une nouvelle grande traversée. Cette semaine, Hildegarde de Bingen, génie cosmique. Tout de suite, on écoute un extrait du premier épisode, Une enfance hors norme.
Pour moi, Hildegarde a une importance et une force de conviction dans sa vie et son parcours. Elle était très courageuse et choisissant son chemin. Et elle raconte dans ses textes combien elle a souffert quand elle était petite, parce qu'elle a vu des choses que les autres n'ont pas pu voir. Elle s'est retrouvée isolée parce qu'elle ne pouvait plus parler et révéler ses visions. Elle était une femme fragile physiquement, souvent malade. Elle se voyait faible. C'est aussi dans sa faiblesse qu'elle a puisé sa force. Dieu lui a donné de l'espoir et du courage.
Ihre Hoffnung und ihre Kraft eigentlich immer wieder von Gott her bezogen hat.
Un extrait de la Grande Traversée signé cette semaine Aurélie Sfez et Benjamin Hu à retrouver juste après les matins d'été à 9h et tous les épisodes d'ores et déjà disponibles sur le site et l'application Radio France. Vous écoutez France Culture, très bon réveil, il est 7h12.
Les matins d'été. Astrid de Villaine.
Hier, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Issu de la société post-esclavagiste martiniquaise des années 20, engagé dans les forces françaises libres en 1943, il se forme à la psychiatrie institutionnelle en Algérie. Penseur et acteur de la décolonisation, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de Peau noire, masque blanc aux damnés de la terre. Il n'a cessé d'analyser les mécanismes de la domination en liant racisme, colonisation, santé mentale et aliénation économique. 100 ans après sa naissance, que reste-t-il de la pensée fanonienne? Bonjour Hamzat Boukhari Yabara.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur du Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, spécialiste du panafricanisme. Alors, première question, la naissance de Frantz Fanon, puisque c'est bien l'anniversaire qui nous occupe aujourd'hui, c'était hier, jour pour jour, il y a 7 ans, le 20 juillet 1925. Il naît à Fort-de-France, en Martinique. Est-ce important pour comprendre sa pensée, ce premier élément biographique?
Oui, évidemment, puisque la Martinique est une société qui a été construite dans l'esclavage, qui a été abolie qu'en 1848. Donc en 1925, on est à peu près 3-4 générations après l'abolition de l'esclavage. Et dans le récit national, il y a eu un travail d'assimilation qui a gommé en fait la période de l'esclavage et qui amène en fait les Martiniquais à se penser français à part entière. Avec un narratif partant de Victor Schœlcher, et c'est quelque chose que Fanon va découvrir de manière un peu brutale et radicale en comprenant qu'il n'est pas tout à fait français de la même manière que ceux de l'Hexagone. Donc la Martinique est une société qui à l'époque est structurée racialement, socialement, économiquement, et Fanon grandit effectivement dans cet univers un peu particulier.
Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. C'est par ces mots que Frantz Fanon explique son engagement dans les forces françaises libres en 1943. Pourtant, quand il arrive sur le front, il découvre autre chose.
Oui, alors Fanon se considère entre guillemets comme un esclave de la liberté. Donc pour lui, c'est vraiment un homme de principe, c'est un homme d'engagement. Je pense que c'est très important de le rappeler. Il s'est engagé à l'âge de 17 ans dans la dissidence pour rejoindre les forces françaises libres. Et quand il arrive, il constate que les soldats antillais, qui sont différents des tirailleurs sénégalais qui eux viennent des colonies, sont discriminés. Ils ne sont pas traités de la même manière, ils ne sont pas considérés de la même manière. Et lorsqu'il s'engage sur le front, notamment dans le Doubs et dans l'Est de la France, il constate que le fermier paysan, en fait, n'est lui-même pas intéressé à défendre sa propre terre. Donc il y a vraiment une désillusion par rapport à ce qu'il pensait venir libérer en France, donc libérer la France du nazisme. Et également le sentiment qu'il s'est trompé de combat, donc il envoie une lettre à ses parents, où il explique qu'il a l'impression de s'être trompé de combat et qu'il regrette finalement d'être venu participer dans ce contexte-là à la libération de la France.
Une forme de prise de conscience qui peut-être aussi le mènera en Algérie.
Oui, alors c'est aussi un engagement, il a à l'époque 17-18 ans, donc c'est un jeune un peu révolutionnaire, fougueux, qui croit peut-être à certaines utopies, qui croit aux mots d'ordre de liberté, d'égalité, de fraternité, et qui effectivement un peu plus tard s'engagera du côté donc de l'Algérie, alors d'abord dans un contexte professionnel, et constatera sur place que son rôle est peut-être d'aller de l'autre côté, du côté des indépendantistes algériens, par rapport à la manière dont il voit que sont traités notamment les malades nord-africains dans l'hôpital de Blida, où il va arriver effectivement au milieu des années 50 pour prendre un poste de médecin-chef.
Juste avant 1951, c'est un tournant chez Frantz Fanon puisqu'il rencontre le psychiatre François Toscuélès, l'un des inventeurs de la psychothérapie institutionnelle. Pouvez-vous nous en expliquer les principes ?
L'un des enjeux, en fait, c'est de resocialiser le malade, le patient. C'est de comprendre également que le malade n'est pas seul. Il fait partie d'un groupe, d'un collectif, d'une société. Et qu'on peut, autant que possible, essayer de traiter le malade par des diagnostics, par des traitements, etc. Mais si on ne guérit pas la société, finalement, on guérit quelqu'un dans le vide. Et donc l'intérêt, en fait, de Toscuélès, donc qui est un médecin qui a notamment fui la guerre d'Espagne, c'est de développer un traitement en espace ouvert. Donc on sort, en fait, l'image du malade de la dimension de l'asile, de la dimension de l'incarcération, et on le réintroduit dans la société à travers des activités sociales, à travers des rencontres, à travers des sorties au marché, à travers des ateliers de couture, à travers en fait une socialisation qui prend compte en fait de la société, du milieu, de la réalité sociale qui est celle du patient. Il ne s'agit plus juste d'établir des diagnostics froids, mais vraiment de réintégrer le malade dans un collectif, dans un groupe, dans la société, avec l'idée que la société elle-même est malade et qu'il faut guérir donc également la société dans ce contexte-là. Et donc Fanon est intéressé par le travail de Toscuélès à Saint-Alban. Il s'y rend, il y suit une formation qu'il va ensuite appliquer lorsqu'il arrivera en Algérie, dans un contexte plus large, puisque là, il est à la tête d'un service et donc il peut développer un certain nombre d'activités, des matchs de foot, des visites, la prise en compte également de la religion. Et également tout un ensemble également de travail autour des infirmiers, puisque lui-même ne parle pas arabe. Et donc, il y a la question également de la langue, du rêve, de la traduction qui s'inscrit dans ce contexte-là.
Alors, quand Frantz Fanon arrive, vous le mentionniez à l'instant, à l'hôpital de Blida en Algérie française à l'époque, il adapte cette méthode aux patients arabes musulmans. En quoi consiste la social thérapie qu'il applique sur place et quelles conséquences aussi tire-t-il de cette expérience sur la colonisation et décolonisation ?
Alors, il arrive dans une société qui est ségrégée, où les patients français et nord-africains ne sont pas traités de la même manière, ne sont pas gardés dans les mêmes lieux. Dans le cadre des patients nord-africains, ils sont incarcérés, enchaînés, ils ont des camisoles, donc ils mettent déjà en place un processus de libération des corps, de libération de l'espace de circulation. Il met également en place des activités donc sportives, donc l'importance vraiment de libérer le corps, de permettre au corps de s'exprimer, des sorties, des visites, des cafés. Donc il réinscrit en fait le patient nord-africain dans sa culture, en montrant l'importance justement de guérir l'homme. Et donc ce travail va l'amener en fait également à apparaître comme un allié finalement des Algériens et donc être identifié aussi bien par les services français que par le FLN comme quelqu'un qui peut servir la cause algérienne dans un contexte donc de guerre d'Algérie, effectivement.
Est-ce qu'il fait le lien entre colonisation et santé mentale directement à ce moment-là ou ça vient plus tard ou...
Le lien est direct, hein. C'est vraiment l'idée que la colonisation déshumanise l'homme. La colonisation est une violence totale, une violence intégrale, qui brise la culture de l'individu, qui l'aliène, qui le rend étranger à lui-même, et qui a aussi des effets sur le côlon. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il soigne aussi bien les patients nord-africains que des militaires, notamment français, qui participent notamment à la torture. Et donc il voit bien comment le rapport de force, la violence, est très présente. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué dans Peau noire, masque blanc, dans la relation du noir et du blanc, autour notamment de la dialectique du maître et de l'esclave, donc la référence à Hegel, en montrant aussi le poids donc de la violence dans le processus de libération par rapport à la résistance, à l'oppression que subissent justement les colonisés.
C'est de cette expérience notamment que naîtra son livre bien connu « Les damnés de la Terre » publié en 1961.
Exactement, c'est un livre qu'il termine d'écrire quasiment sur son lit de mort. Alors c'est souvent présenté comme un livre testament, mais c'est un livre qui s'inscrit dans une trajectoire d'engagement, de prise en compte de la conscience nationale des peuples et en même temps de leur nécessité de penser une libération des peuples. Les damnés de la terre aussi met en avant l'importance de la paysannerie, donc la référence du titre peut faire référence au communisme, mais c'est la question en fait du sous-prolétariat, de qui doit mener la révolution africaine, la révolution algérienne, parce que Fanon voit aussi très clairement les limites de ce combat anticolonialiste, la possibilité de voir émerger des bourgeoisies nationales qui reprennent quelque part la place du colon. C'est-à-dire que l'aliénation peut produire des élites algériennes, africaines, etc., qui en fait ne se mettent uniquement que dans les habits du colon pour produire la même violence vis-à-vis du peuple une fois libéré. Et donc Les damnés de la terre est vraiment un livre phare qui va avoir une forte influence sur beaucoup de mouvements de libération, sur beaucoup de mouvements de résistance, que ce soit aux États-Unis avec le mouvement du Black Power, en Afrique du Sud avec la lutte contre l'apartheid, et dans tous les terrains où il y avait effectivement des luttes de libération dans les années 60-70, ce qui fait un peu de Fanon le prophète du tiers-monde, le prophète de la libération des peuples à ce moment-là.
Ce livre, Les damnés de la Terre, il est préfacé par Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que ça dit de la pensée de Frantz Fanon, cette rencontre? Et en effet, il mourra très peu de temps après cette publication.
Alors, dans les lectures de Fanon, il y a pas mal d'ouvrages autour de l'existentialisme, Kierkegaard, Sartre, Jaspers, etc. Et à cette époque-là, Sartre est quand même le plus grand intellectuel français, l'un des plus grands en tout cas, qui est engagé sur la question de la guerre d'Algérie et qui donc soutient l'œuvre et le combat de Fanon. Et cela montre aussi la capacité de Fanon à dialoguer avec une certaine, à critiquer aussi une certaine gauche française dans le contexte de la guerre d'Algérie et surtout, je dirais, à entrer dans vraiment les grandes figures de la pensée anticoloniale et l'histoire intellectuelle.
Pourquoi Frantz Fanon n'est-il pas étudié à l'école Hamzat Boukhari Yabara?
Alors, c'est un homme qui a été, qui a combattu la France dans le cadre de l'anticolonialisme, qui a été condamné également par la France, donc qui a, je dirais, tout un passif colonial. C'est la question de l'histoire coloniale française, qui de manière générale est très peu enseignée à l'école. Ensuite, on a, je pense, un oubli de la figure qu'il a été, de l'importance qu'il a été. Alors, au niveau des universités, il a un tout petit peu plus étudié. Dans les universités à l'étranger, il est très étudié, ses livres sont traduits, il y a des colloques régulièrement qui sont faits à son sujet. Mais dans le contexte français, il y a aussi évidemment l'arrière-plan de la guerre d'Algérie, qui je pense l'invisibilise, ou en tout cas tend, je dirais, à le mettre de côté dans l'enseignement français.
Oui, parce qu'on est passé un petit peu vite, pardonnez-moi, sur son engagement hein, aux côtés du FLN en 1954 dans la guerre d'Algérie. Il devient même ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne au Ghana.
Oui, alors il démissionne hein, de son poste de médecin à Blida et en 57 il part s'installer en Tunisie. Il devient aussi journaliste pour El Moudjahid, donc le journal officiel du FLN, et ambassadeur du GPRA. Donc il voyage dans plusieurs pays africains pour défendre en fait la révolution algérienne. Et cela l'amène effectivement à développer une stature internationale, tout en continuant à soigner à l'hôpital de la Manouba à Tunis. Donc c'est vraiment un homme de théorie et de pratique, d'écriture et d'action, et c'est ça qui le rend extrêmement protéiforme dans le domaine de la politique, de la philosophie, de la psychiatrie, de la sociologie et de l'anthropologie notamment.
Il y a un autre livre majeur de Frantz Fanon, c'est « Peau noire, masque blanc », 1952. Que nous apprend ce livre sur la lutte contre le racisme notamment, et que peut-il nous enseigner aujourd'hui ?
Alors ce livre, il est très important parce qu'effectivement, il démontre les problématiques autour du désir de reconnaissance, autour de la manière dont la race traverse les relations sociales, les relations intimes. Et comment il est nécessaire en fait de combattre les préjugés qui sont le fruit d'une construction sociale. Il montre bien comment la race renvoie à des représentations qui font qu'on va désigner telle ou telle personne par des éléments ou des stéréotypes ou des phénotypes blanc-noir, alors que derrière il y a une humanité qui est en fait hiérarchisée. Donc il faut décoloniser la race et déracialiser l'histoire, notamment l'histoire coloniale. Et donc il faut revenir aux racines finalement du racisme, qui sont des racines notamment économiques dans l'esclavage et dans les représentations sociales.
Merci Hamzat Boukhari Yabara d'être venu ce matin sur France Culture. Je rappelle que vous êtes docteur du Centre d'études africaines de l'EHESS, spécialiste du panafricanisme.
7h-9h, les matins d'été, Astrid de Vilaine.
7h25 sur France Culture, l'heure du reportage de la rédaction. Ce matin, comment concilier élevage et environnement? À la ferme du Pin, une unité expérimentale de l'INRAE en Normandie, les scientifiques observent et collectent des données indispensables pour leur principale recherche, adapter l'élevage au dérèglement climatique. Catherine Pétillon.
Ici, vous êtes dans un bâtiment avec une soixantaine de vaches.
Ici, le repas des vaches est surveillé de près. Cet élevage, c'est celui de l'unité expérimentale du Pin, dirigée par Frédéric Launay, une ferme où les chercheurs de l'INRAE peuvent observer les caractéristiques de bovins laitiers et collecter des données indispensables pour trouver comment adapter l'élevage au dérèglement climatique. Parmi les principales critiques faites à la filière, il y a l'importance des émissions de méthane liées à la digestion des ruminants en elles-mêmes. Mais les chercheurs travaillent à des pistes pour les réduire.
Les auges que vous avez devant vous, là, elles mesurent en permanence le poids qu'il y a dedans. Là-bas, il y a une vache là, qui est en train de manger. Et donc, on va être capable, grâce à ces auges, de mesurer l'ingestion des animaux. Et la production de méthane, elle est très largement corrélée à ce que mangent les vaches. Derrière les parois grises, il y a les green feed qui mesurent les émissions de ces vaches. Donc là, dans ce bâtiment, l'idée, c'est bien de mesurer tout ce que la vache absorbe, qualitatif et quantitatif, et tout ce qu'elle produit.
Les scientifiques le savent désormais, certaines vaches produisent plus de méthane que d'autres, et c'est en partie pour des raisons génétiques. Alors pour être capable de repérer ces déterminants, la chercheuse Solène Fresco a établi une équation permettant de prédire les émanations de méthane d'une vache en fonction de ses caractéristiques.
Cette méthode, c'est l'utilisation de la composition de leur lait. En fait, il y a un lien entre les émissions de méthane de l'animal et la composition de son lait. Et la composition du lait, c'est une information qui est déjà disponible en routine pour les éleveurs. Ça permet en fait aux éleveurs d'avoir une information sur leurs animaux, savoir lesquels sont fortement émetteurs, lesquels sont faiblement émetteurs, et de pouvoir faire un choix dans leur sélection des individus qu'ils souhaitent conserver pour la génération suivante.
Dès l'an prochain, ce nouvel index de sélection sera proposé aux éleveurs. À eux ensuite de voir la place qu'ils accorderont à ce critère environnemental par rapport aux autres, comme la résistance aux maladies, le niveau de production ou encore la morphologie d'un animal. La sélection génétique n'est quoi qu'il en soit qu'une partie de la réponse, et c'est une piste qui prendra du temps. Les chercheurs travaillent aussi sur des techniques pour avancer l'âge du vêlage ou encore rendre les vaches fertiles plus longtemps, autrement dit, réduire le temps où les vaches sont improductives. Un peu plus loin, des vaches profitent d'une partie des 270 hectares de prairies de la ferme du Pin. Ici, on travaille sur les systèmes herbagers. Car modifier l'alimentation des animaux, c'est un levier majeur pour réduire l'impact environnemental, insiste le chercheur Luc Delaby.
Aujourd'hui, les vaches laitières notamment, c'est des animaux qui reçoivent environ 70% de ce qu'elles mangent sous forme de fourrage. Un fourrage, c'est de l'herbe, de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, du foin. Et puis environ 30% de leur ration annuelle, c'est ce qu'on appelle du concentré, qui est en fait un aliment à base de grains, de l'orge, du blé, de l'avoine, du tourteau de soja, dont on parle tant parce qu'il est importé massivement d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Et donc l'idée, c'est d'essayer de réduire cette part de grains dans la ration. Donc de faire manger plus de fourrage, faire pâturer les vaches, ça paraît spontané, mais ce n'est pas si facile que ça. Et demain, l'idée, c'est de retrouver plus d'herbe dans la ration des vaches laitières et retrouver plus de pâturage.
Sylvain Quellier est éleveur et grâce aux travaux et outils de l'INRAE, il a allongé la période où ses bêtes pâturent. Lui en est persuadé, l'élevage est compatible avec les enjeux environnementaux.
Moi, je me considère plutôt comme une solution qu'un problème. Si on travaille bien, on peut même être la pierre angulaire de la gestion des gaz à effet de serre parce que c'est un cycle, la vache, en fait, elle consomme déjà ce qui n'est pas consommable par l'humain. Elle valorise des puits de carbone, donc il faut bien les entretenir, aussi, ces puits de carbone-là. Si demain on met un tracteur avec un broyeur, bah, il faudra aussi consommer du carburant. Et une vache, certes, elle émet du méthane, mais elle n'émet pas de particules fines.
C'est globalement de la manière dont les éleveurs s'empareront des solutions scientifiques disponibles et de la capacité aussi à les intégrer dans un modèle économique viable que dépendra la transition des élevages.
Le reportage de la rédaction signé Catherine Pétillon à retrouver sur le site et l'application Radio France. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez France Culture, il est 7h30. Le point sur l'actualité, Margot Delpierre. Les narcotrafiquants les plus dangereux doivent être transférés à partir de cette semaine à la prison de Vendin-le-Veil.
Oui, dans un quartier de haute sécurité de cet établissement du Pas-de-Calais pour y être isolé, un régime carcéral critiqué par des avocats et des ONG. Plusieurs convois sont prévus, organisés avec discrétion et escortés par le GIGN notamment. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Le préfet de l'Hérault s'est rendu hier soir dans le quartier de Béziers, la Devèze, secoué par des violences dans la nuit de samedi à dimanche, une cinquantaine d'individus s'en sont pris aux forces de l'ordre. Un guet-apens lié à la lutte contre le trafic de stupéfiants, selon lui. Tandis qu'à Nîmes, après là aussi des actes liés au narcotrafic, un couvre-feu va commencer ce soir pour les mineurs de moins de 16 ans dans les secteurs les plus sensibles de la ville. Il doit durer 15 jours, renouvelable si nécessaire. 1 180 000 signatures pour l'instant. La pétition contre la loi agricole Duplomb rassemble de plus en plus de monde. Il en fallait au moins 500 000 issus de 30 départements ou collectivités d'outre-mer pour que soit organisé à l'Assemblée un débat en séance publique. Le texte réintroduisant sous condition un pesticide décrié, l'acétamipride, a déjà été adopté, mais les opposants demandent au président Emmanuel Macron qu'il ne soit pas promulgué.
Nous en reparlerons avec nos invités dans quelques minutes. Margot, le bilan à Soueida s'élève à plus de 1100 morts.
C'est le bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après une semaine de violences intercommunautaires à Soueida, ville à majorité druze du sud de la Syrie, un premier convoi d'aide humanitaire est entré hier dans la ville dévastée. D'après l'ONU, ces violences ont aussi déplacé près de 130 000 personnes en une semaine seulement. Le Premier ministre japonais est sur la sellette après l'échec de sa coalition de droite hier au Sénat. Elle a perdu la majorité absolue, comme dans la Chambre des députés. En revanche, un parti d'extrême droite, anti immigration, San Seto passe de 2 à 15 sièges au Sénat. Pour l'instant, vous écoutez France Culture, il est tout juste 7h32. Suite des matins d'été avec vous, Astrid de Villene.
Merci Margot Delpierre, on vous retrouve à 8h pour le journal de la rédaction. Dans un instant, violence dans le sud syrien, le nouveau régime est-il déstabilisé? On en parle avec nos invités, mais à 7h32 sur France Culture, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
Les matins d'été, Astrid de Villene.
Et la revue de presse internationale, c'est avec vous Marie Dorset, bonjour.
Bonjour Astrid, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vous nous emmenez en République démocratique du Congo, où un cap vers la paix dans l'est du pays vient d'être franchi.
Avec la signature ce week-end d'une déclaration de principe entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Depuis des décennies, rappelle Jeune Afrique, l'est du pays, riche en minerais, est en proie à des conflits. Plusieurs cessez-le-feu, plusieurs accords de paix ont été conclus, puis violés ces dernières années. Des milliers de personnes ont été tuées, des centaines de milliers de civils ont dû fuir, selon les Nations Unies, rappelle la BBC. Chiffre contesté par le M23 qui affirme que moins de 1000 personnes sont mortes et la situation est de nouveau devenue dramatique. En janvier, quand les rebelles de l'AFC M23 se sont de nouveau emparés de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, rappelle Al Jazeera, au moins 773 personnes y ont perdu la vie. Depuis, ces attaques et la reprise de la région par le M23 2023, elle enregistre au moins 500 000 de déplacés, renseigne Jeune Afrique, graphique glaçant à l'appui.
La déclaration de principe signée ce week-end vient donc ouvrir les discussions pour une paix durable.
C'est le premier engagement direct entre Kinshasa et les rebelles depuis le début de l'année, souligne Jeune Afrique. Les deux parties doivent s'abstenir de toute attaque, de toute propagande haineuse et de toute tentative de s'emparer par la force de nouvelles positions sur le terrain. Voilà les principales lignes directrices du texte qui s'inscrit dans la lignée d'un autre accord signé il y a un mois, rappelle Africa News, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le pays voisin, accusé de soutenir le mouvement rebelle M23. Un accord qui engage notamment les deux pays à respecter mutuellement leur souveraineté et leurs frontières. Mais AFC, M23 avait insisté pour négocier son propre accord. Les discussions se sont tenues à Doha. Le Qatar, comme créateur de solutions, se félicite d'ailleurs Al Jazeera qui liste en fin d'article les médiations les plus importantes auxquelles le pays a pris part dans le monde. Et de citer Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump sur l'Afrique, le Qatar est connu pour son rôle de pionnier dans la résolution des conflits à travers le monde. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la CDAA, la Communauté de développement d'Afrique australe, tous ont salué cette étape dans le processus de règlement du conflit, relaye de son côté Rwanda News Agency, le bulletin de l'agence rwandaise d'information, organe du parti au pouvoir à Kigali. Le calendrier vers un accord de paix est aussi très précis, mise en œuvre de la déclaration d'ici le 29 juillet, début des négociations directes le 8 août, accord le 18 août au plus tard. Mais déjà, des tensions se font sentir, notamment sur un point, la présence des troupes rebelles dans la région de l'Est. Retrait non négociable de l'AFC M23 des parties occupées, suivi du déploiement de nos institutions, se félicite le porte-parole du gouvernement congolais sur X. Ce n'est pas l'interprétation de Benjamin Mboni, pas le chef de la délégation AFC M23 à Doha, comme il l'a confirmé à Jeune Afrique.
La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela.
Vous l'entendez, les discussions risquent donc d'être encore très longues entre les forces rebelles et le gouvernement avant de retrouver une paix durable dans la région.
Vous nous parlez aussi ce matin, Marie, d'une injustice climatique.
Relevée par America Futura, la rubrique d'El País sur le développement durable, quelques semaines après les pluies diluviennes qui se sont abattues fin juin sur le Venezuela et la Colombie. Un glissement de terrain a fait notamment 27 morts à Medellín. Des milliers de personnes ont dû fuir des régions au nord du Venezuela. S'agit-il de conséquences du réchauffement climatique ? C'est bien tout le problème, relève le journal. Des chercheurs de la World Weather Attribution spécialisés ont l'habitude de mener des études sur place après des événements climatiques extrêmes. Mais les résultats n'ont cette fois-ci pas été concluants. Impossible de déterminer le rôle du changement climatique dans ces pluies torrentielles, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de données. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont mal compris dans le nord de l'Amérique du Sud, explique à America Futura Paola Arias, professeure à l'université d'Antioquia en Colombie. Puisque les données d'observation à long terme et les modèles climatiques mondiaux sont centrés sur le nord et donc peu pertinents pour les tropiques, ce qui veut dire aussi qu'il est quasiment impossible d'anticiper les risques. Alors il faut concentrer de nouvelles recherches dans ces régions. Plus de science sauvera des vies, assure la chercheuse à America Futura.
Merci beaucoup Marie Dorsay pour la revue de presse internationale que l'on retrouve, comme toutes les autres, sur le site et l'application Radio France. Il est 7h38 sur France Culture. Dans un instant, les violences dans la région druze de Soueida déstabilisent-elles le régime syrien ?
T'as l'air de rien, Tréguier, mais t'es un sacré héros.
Ah oui ?
1875, un jeune explorateur breton se retrouve au fond d'une mine du pays de Galles. Une terrible catastrophe vient bouleverser son destin et la marche du monde.
L'esclavage est partout et nous en sommes responsables.
Après l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, le retour du héros qui ose changer l'histoire. L'improbable révolution de Corentin Tréguier au Royaume-Uni, par Emmanuel Suarez, réalisation Sophia de Picon. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Du mémorandum de Budapest à l'armistice entre les deux Corées en passant par le Brexit, une relecture des grands accords internationaux qui ont changé l'histoire. Certains n'ont jamais tenu leurs promesses, d'autres sont morts, d'autres encore ont dû se réformer pour survivre. Ils ont changé le monde, les accords internationaux par Isabelle Lasserre, réalisation Laure-Hélène Planchet. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec Le Figaro.
Les matins d'été, Astrid de Vilaine.
Une semaine de violence dans le sud de la Syrie, bilan 1100 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et 128 000 déplacés selon l'ONU. Au-delà des affrontements intercommunautaires entre druzes et bédouins, quel rôle pour les forces gouvernementales déployées et les groupes de miliciens qui s'y ajoutent? Israël a frappé la Syrie au même moment. Pour quelles raisons? Et le nouveau régime syrien du président de transition Ahmed al-Shara est-il déstabilisé par cette semaine qui s'est achevée par un cessez-le-feu annoncé par les États-Unis? Bonjour Dorothée Schmid.
Bonjour.
Vous êtes politiste responsable du programme Turquie Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et à distance, j'accueille Wassim Nasr. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur de État islamique, le fait accompli chez Plon. Et vous avez interviewé Ahmed al-Sharab pour France 24 en décembre dernier. Ce sera très utile pour notre conversation. Alors peut-être pour resituer les choses, comment tout a commencé cette semaine, Dorothée Schmid?
On a en fait une situation qui est de cohabitation qui est très fragile entre communautés ethniques et religieuses en Syrie, évidemment depuis le début de la guerre civile. Ça tombe sous le sens puisque c'est une guerre civile. La Syrie, c'est une mosaïque de communautés qui est très compliquée. Et sur des terres dans le sud où cohabitent normalement de façon assez pacifique des tribus arabes qu'on dit bédouines mais qui en fait sont complètement sédentarisées et des druzes, on a aujourd'hui des susceptibilités et des exactions de communauté à autre. Donc un marchand de légumes druze qui aurait été enlevé par une tribu bédouine, et donc à partir de là un cycle de revanche, de vengeance qui s'est instaurée et qui est assez rapidement montée, il y a eu une sorte d'escalade de violence parce que le sujet du gouvernement syrien, c'est évidemment l'autonomisation ou au contraire la fait d'arriver à remettre sous un parapluie unitaire toutes ces communautés syriennes, sachant que les druzes historiquement ont une histoire un peu d'autonomie et de particularisme dans le contexte syrien.
On va en parler. Wassim Nasr, comment expliquer cette conflictualité entre druzes et bédouins?
En fait, la conflictualité entre les deux groupes est très très ancienne. Hein. Ça veut dire que c'était la conflictualité qui a démarré entre sédentaires et nomades. Hein. Mais effectivement, comme ça a été très bien dit, les bédouins aujourd'hui ils sont sédentarisés. Et puis ça s'est resté dans le temps, ça s'est développé dans le temps et ça s'est greffé sur les nouvelles conflictualités de la région, que ce soit pendant la guerre civile en Syrie ou à sa fin avec la victoire des nouvelles autorités. Donc l'animosité est bien réelle entre les deux groupes de population. Et puis après, s'ajoutent à cela des intérêts, disons, économiques et puis des intérêts de trafic via la Jordanie. On l'a pas dit, mais Soueïda est une région très très pauvre et donc les trafics de tout genre font partie de l'économie réelle de cette région. Ils sont tenus par certains groupes de bédouins et certains groupes de druzes, et il y a cette conflictualité. Et on rajoute à cela une vraie conflictualité, disons, religieuse entre les deux groupes qui est exacerbée dans ces moments de tension tels qu'on les voit maintenant. C'est-à-dire la justification religieuse vient très vite des deux côtés pour justifier les exactions d'un côté ou de l'autre.
Dorothée Schmid, qui sont exactement les druzes? Je crois qu'on parle d'environ 500 000 personnes en Syrie, mais ils sont aussi présents dans d'autres pays limitrophes.
Alors les Druzes, c'est une communauté religieuse qui est sortie de l'islam. Alors il y a un débat sur le fait de savoir s'ils sont musulmans ou pas, qui est issue de l'ismaélisme, qui est une branche du chiisme, une branche ésotérique du chiisme. C'est une communauté dont les croyances sont très mal connues, parce que elles sont des croyances initiatiques qui sont pas du tout ouvertes sur l'extérieur. Une communauté complètement endogame, avec une interdiction de conversion. Donc c'est vraiment une communauté qui est très en fait repliée sur son système de valeurs, mais qui pour survivre, parce qu'on a 1 million seulement de Druzes dans toute la région, dont l'essentiel se trouve en Syrie. Les chiffres qu'on a, c'est 700 000, mais évidemment, les recensements sont pas ni très récents, ni très fiables. En Syrie, vous savez que les 2/3 de la population syrienne ont été soit déplacés, soit réfugiés depuis le début de la guerre civile. Mais les Druzes, ils sont restés hein, dans leurs montagnes, parce que précisément, le Djebel Druze, c'est l'endroit où ils se sont réfugiés lorsqu'ils sont sortis de l'islam sous le califat fatimide au Caire. Et ils sont restés dans cette montagne où ils ont donc fonctionné en vase clos pratiquement. Et comme l'a dit Wassim Nas il y a un instant, il y a des difficultés de cohabitation religieuse, parce que en Syrie, on a au moins 2 communautés qui ont vraiment une sorte d'islam très considéré comme hérétique en fait par les sunnites, qui sont les alaouites d'un côté et les druzes de l'autre. Donc c'est ces fameuses minorités dont on parle sans cesse depuis que les combattants de Hatta al-Sham ont pris le dessus et se sont hissés au pouvoir en Syrie. Ça fait partie de ces fameuses minorités dont on dit qu'il faudrait arriver à assurer la sécurité.
Wassim Nasr, comment le président par intérim Ahmed al-Sharaa s'est positionné cette semaine face à ces conflits violents ?
Bah déjà, il faut rappeler que ça n'a pas éclaté cette semaine. Ça veut dire que la conflictualité a démarré avec la prise de Damas, par Ahmed al-Sharaa. Et la situation des Druzes dans cette région, donc dans Jabal al-Druze, ou Jabal la montagne des Arabes, comme on dit des fois aussi, par là-bas, ils ont toujours eu un statut particulier. Particulier parce qu'ils ont réussi à l'imposer aux autorités de Damas. Donc ça donnait du fil à retordre aux nouvelles autorités, parce que s'ils acceptaient, de fait, ils ont accepté cette particularité, ils seraient obligés d'accepter des particularités partout en Syrie, ce qui mettrait à mal leur projet de réunifier le pays. Mais il faut savoir aussi que parmi les Druzes, donc syriens, il y en a qui sont très proches du régime actuel de Damas, comme il y en avait qui étaient très proches du régime précédent de Damas, donc sous Assad. Al-Hijri, par exemple, fait partie des anciens soutiens d'Assad. Donc à la chute du régime d'Assad, encore une fois, il y a beaucoup d'officiers, disons, Druzes, qui étaient dans les rangs de l'armée syrienne ancienne, qui sont rentrés chez eux à Soueida et trouvaient refuge à Soueida. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, un de ses premiers opposants, Balaous, un autre cher Druze, a vu son père assassiné par Assad. Donc là, quand le conflit a rééclaté pour la troisième fois, si on est bon, à Soueida, donc depuis la chute d'Assad, par exemple, les hommes de Hijri sont allés sur la tombe de l'autre de Balaous qu'on vient de nommer, qui est Druze aussi, sur la tombe de son père, pour la profaner. Vous voyez, donc il y a aussi, il ne faut pas oublier, les dynamiques internes chez les Druzes. Effectivement, les plus nombreux sont en Syrie, mais il y en a au Liban, il y en a en Israël, il y en a en Jordanie. Et à chaque fois, juste pour simplifier, la communauté druze, qui est très minoritaire dans les pays concernés, prend le côté du pouvoir, quel qu'il soit. Par exemple, quand Israël a annexé le Golan en 81, les Druzes du Golan, donc syriens, ont toujours refusé en grande partie de prendre la nationalité israélienne. Alors que de l'autre côté, en territoire israélien, depuis la création de l'État d'Israël, les Druzes sont partie prenante de la création de cet État, sont enrôlés dans l'armée, deviennent des officiers gradés, à la différence des autres composantes arabes d'Israël. Vous voyez ? Donc à chaque fois, il y a cette adaptation qui est une stratégie de survie de cette communauté minoritaire qui se greffe au pouvoir central. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui avec Soueida est vraiment une exception dans l'histoire, en tout cas récente, disons, des Druzes dans la région.
Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à ce nouveau défi, nous nous trouvons au cœur d'une bataille visant à préserver l'unité de notre nation. L'entité israélienne, connue pour ses tentatives répétées de nous déstabiliser et de semer la division, cherche une fois de plus à transformer notre territoire en un champ de bataille chaotique et à démanteler le tissu social de notre peuple. Nous sommes déterminés à demander des comptes à ceux qui ont fait du tort à nos frères et sœurs druzes. Ils sont sous la protection de l'État, et ce, par le biais de la loi et de la justice.
Extrait d'une allocution télévisée la semaine dernière d'Ahmed al-Shara, président par intérim de la Syrie, après les bombardements israéliens. Puisque c'est bien ça qu'il faut rappeler, au-delà du conflit dans le sud syrien, Dorothée Schmidt, c'est qu'Israël s'en est mêlé.
Oui, alors Israël a affirmé depuis en fait la chute du régime de Bachar al-Assad, Israël affirme qu'il est prêt à protéger les druzes en cas de difficulté de cette communauté avec le régime. Alors pourquoi ? Parce que on a peut-être 150 000 druzes en Israël qui sont une communauté extrêmement loyale à l'État israélien, qui contrairement aux Arabes israéliens, c'est-à-dire aux Palestiniens d'Israël, sont pleinement intégrés dans les institutions, font notamment leur service militaire, servent dans Tsahal et qui sont donc considérés comme des alliés. Et donc on a ce qui est présenté finalement par le gouvernement de Netanyahou comme une sorte d'obligation morale envers la communauté druze de protection étendue au-delà des frontières d'Israël. Mais évidemment, on a aussi une envie de mettre la pression sur ce nouveau régime syrien qui, pour les Israéliens, pourrait se devenir une sorte d'émirat menaçant à leurs frontières. Et donc, revient dans le débat politique israélien un fantasme qui avait émergé dès 67 de séparatisme druze, de essayer de pousser à l'émergence d'un État druze. On a un autre discours qui se développe sur le nord du Liban qui pourrait être attaché à la Syrie. Donc finalement, l'idée c'est d'affaiblir, c'est de fragmenter tous ces États voisins et particulièrement le Liban et la Syrie qui sont les deux États voisins d'Israël qui n'ont pas fait la paix avec Israël. Puisqu'il faut rappeler que l'Égypte et la Jordanie aujourd'hui, puisqu'ils ont fait la paix avec Israël depuis déjà un certain temps, sont finalement un peu incapacités aussi dans leurs négociations sur les équilibres régionaux aujourd'hui.
Wassim Nasr, quel est votre regard sur l'attitude d'Israël ces derniers jours ?
Écoutez, en Israël, il y a toujours eu deux tendances, en tout cas vis-à-vis de Shara et du nouveau pouvoir. On a vu dès la chute d'Assad, l'armée israélienne a frappé toutes les bases de l'armée, les bases balistiques, etc. Ce qui était tout à fait compréhensible dans la mesure où ils ne savaient pas cet armement dans les mains de qui allait tomber. Et on sait aussi que c'est grâce ou à la faveur des frappes israéliennes répétées contre la Syrie et le Liban et le Hezbollah en particulier sur les fronts ouest d'Alep, qui ont affaibli le régime d'Assad, que HTS et après Ahmed al-Shara ont pu faire tomber Assad. Et ça, c'est connu par tout le monde sur place, mais ce qui est incompréhensible, c'est de continuer dans cette dynamique-là, comme ça a été très bien expliqué par Madame Schmidt, de fragmentation ou de souhait de fragmenter la Syrie. Pour la simple raison que c'est la première fois depuis 54 ans que les autorités à Damas tendent la main, depuis la création de l'État d'Israël, en fait, aux autorités israéliennes. Et quand je dis ça, ce n'est pas théorique. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, ils ont rendu aux Israéliens le dossier d'Eli Cohen. Eli Cohen, c'est un espion israélien qui a été pendu à Damas dans les années 60. Ils ont rendu son dossier aux autorités. Ils ont rendu la dépouille d'un militaire de Tsahal, mort au Liban en 1983, une dépouille détenue par le FPLP palestinien à Damas. Ils ont chassé le FPLP palestinien, par exemple. Ils mettent un terme au trafic d'armes qui, aujourd'hui, se fait depuis la Syrie vers le Liban au profit du Hezbollah. Il y a eu des rencontres de délégations directes et indirectes qui a été admis par le président syrien à Paris quand il a été accueilli par le président Macron. Il a dit très clairement, on a des négociations indirectes avec les Israéliens. Sauf qu'il y en a aussi qui sont directes et dont la dernière à Bakou a précédé de quelques jours les heurts qui ont éclaté à Souaïda. Donc en Israël, il y a des gens aussi qui disent qu'il faut tendre la main à ce pouvoir à Damas parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts communs. Sauf que ceci, déjà, était très difficile à justifier pour Shara vis-à-vis de sa propre base, de dire on parle avec les Israéliens, ce qu'il a par ailleurs assumé publiquement. Et maintenant, c'est devenu quasi impossible, en tout cas sous le gouvernement Netanyahou. Donc les deux tendances sont là. La tendance sécuritaire qui dit il faut fragmenter, il faut avancer sur le terrain, ce qu'il continue de faire par ailleurs en armée israélienne. Et l'autre qui dit il y a une ouverture, il y a une fenêtre stratégique qui se présente. Essayons de voir si ça peut marcher. Et si ça ne marche pas, on revient à la stratégie disons, que sécuritaire, parce que les Israéliens, ils en ont les moyens. On rappelle quand même qu'ils ont le contrôle aérien de toute la région, Irak, Syrie, Liban, Jordanie. Ils ont la capacité de frapper la frontière est de l'Iran. Donc ce n'est pas, peu importe quelle forme prendrait ce pouvoir à Damas, ce n'est pas ça qui va être une menace existentielle à Damas. Et ça, ce sont les propos d'Israéliens qui, eux, souhaitent qu'une main soit tendue au nouveau pouvoir, dont, par exemple, pour ne citer que lui, parce que c'est le plus connu, Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien.
Dorothée Schmidt. Je me dis que ce serait formidable si on avait vraiment deux camps en Israël, mais j'ai quand même le sentiment que l'idée est que même si on négocie avec la Syrie, il faut négocier en position de force. Quand Netanyahou a annoncé que un premier cessez-le-feu avait été signé, il a dit ce cessez-le-feu a été obtenu par la force. Et je ne crois pas vraiment à la dispersion des efforts ou aux deux canaux avec d'un côté une négociation de paix qui avance à grands pas et de l'autre côté des opérations militaires répétées. Je crois que vraiment Israël veut mettre sous pression de toute façon ce régime pour montrer que même si la paix est signée, cette paix, elle sera une paix qui devra avant tout assurer les intérêts de sécurité d'Israël. On peut évidemment en prendre aussi pour preuve le fait que dès que Ahmed Shara s'est emparé du pouvoir, Israël a envahi la zone tampon au-delà du Golan, qu'il y a 6 mois, Netanyahou a annoncé le doublement des colonies israéliennes dans le Golan, qu'il y a eu beaucoup de gestes faits quand même pour essayer de détacher en fait les druzes du régime syrien. Donc je crois que finalement c'est plutôt une stratégie un peu d'Israël, un peu sur tous les plans, sur un plan social, politique, diplomatique, pour arriver à montrer que la domination aujourd'hui n'est pas uniquement militaire, ce qui est très clairement le cas sur tous les fronts qu'Israël a ouverts, mais que c'est aussi éventuellement une domination politique. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on est aujourd'hui dans une séquence où, alors qu'avant, l'avenir politique de la Syrie, du temps de Bachar al-Assad, il se discutait entre les Russes, les Turcs et les Iraniens. Aujourd'hui, les Iraniens sont partis, les Russes sont marginalisés, et Israël se dit que c'est le moment de rentrer dans le jeu pour dire son mot sur ce qu'il souhaite voir émerger politiquement en Syrie.
Le ministre israélien Bezalel Smotrich a déjà précisé en avril qu'il n'était pas, je cite, intéressé par une Syrie unifiée. On voit bien aussi l'intérêt dans le Golan, c'est que peut-être pour Israël que ce soit une zone démilitarisée.
L'intérêt, c'est de... Bon, le Golan est annexé, donc de toute façon, le Golan se trouvant au-dessus de Damas permet de contrôler complètement stratégiquement Damas. Et pour le moment, ce qui est très important, c'est de voir que militairement, les Israéliens peuvent se contenter de faire des frappes aériennes, puisqu'ils ont complètement détruit ce qui restait de capacités militaires syriennes, pratiquement. C'est-à-dire que comme ils bombardent des bases militaires, les aéroports, là, ils ont quand même, lors des dernières frappes, frappé à Damas... détruit une aile civile du ministère de la Défense, fait des frappes près du palais présidentiel. Donc, pour moi, ce sont quand même des frappes d'intimidation, très clairement, pour montrer que les institutions syriennes ne sont à l'abri d'aucune pression israélienne.
Wassim Nasr, quand vous avez rencontré le président syrien par intérim en décembre, il vous disait « je ne veux surtout pas entrer dans une guerre avec Israël de mémoire ».
En tout cas, il disait qu'il ne voulait pas être une plateforme, disons, de déstabilisation pour la région, ni pour le monde, et le seul pays qu'il a cité nommément, c'était Israël. Et on était 5 jours ou 6 jours après la chute d'Assad. L'interview a eu lieu au palais du gouvernement, il n'était même pas encore dans les palais présidentiels, mais j'ai envie de vous dire qu'il m'avait aussi déjà dit ça en avril 2023. Parce que moi, je l'avais rencontré en avril 2023 à Idlib, et il avait déroulé, disons, le projet politique qu'ils avaient. Ça veut dire, on n'a rien contre l'Occident, on se désengage du terrorisme international, on n'est plus un groupe djihadiste, ce qui nous intéresse, c'est de faire tomber Assad et combattre les Russes, vous et nous, même combat, pourquoi vous aidez les Ukrainiens et pas nous? Je vous vulgarise un petit peu, donc c'était une longue discussion qui devait rester off, parce que tout ce qu'il avait dit, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire, c'était trop tôt pour sa propre base. Vous voyez, parce qu'on revient à ça, ceux qui l'ont porté au pouvoir, moi j'aime pas trop ce mot qui a été utilisé par Patrick Haini, il dit déradicalisation par le haut, hein, parce que moi je pense qu'un engagement politique c'est pas une maladie, ça se guérit pas, mais on peut changer d'avis, on peut changer d'objectif, et sa sortie donc du djihad global, du terrorisme, et cette idée que on peut trouver un arrangement, disons, si ce n'est pas une paix avec Israël, était très nouveau vu d'où il vient. Juste par exemple, à titre d'exemple, quand il a pris la parole après les frappes à Damas, qui sont effectivement des frappes d'intimidation parce que le bâtiment visé était déjà vide, il a dit pour la première fois l'entité israélienne. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, alors avant, il disait Israël. Pour ceux qui ne savent pas, dans la région, pour nier, on va dire, l'État d'Israël, lui nier sa nature étatique, le Hezbollah, etc., ils disent entité. Et pour la première fois, après les frappes à Damas, on a eu le Hezbollah, donc combattu par le nouveau pouvoir à Damas, faire un communiqué regrettant et condamnant les frappes à Damas. Donc c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, qu'on a une sorte de shift ou de changement de cap de la Syrie, hein, qui est peut-être en train d'être raté. Et quand je dis deux tendances, entendons-nous bien, en Israël, je ne dis pas qu'il y a deux courants qui se confrontent, mais il y a eu cette idée qu'un rapprochement était judicieux, d'où les rencontres aux Émirats, d'où la rencontre à Bakou, etc. Mais effectivement, le gouvernement Netanyahou a fait le choix du tout sécuritaire. Et quand je dis qu'il veut trouver un rapprochement avec Israël, c'est pour ça aussi, hein, que les pays arabes du Golfe, que ce soit les Émiratis, les Saoudiens, etc., qui l'ont aussi pris sous leur aile. Parce que les pays arabes, incapables vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, ont trouvé en la Syrie quelque chose de positif, disons, aussi pour leur propre population. Donc tout ça était une dynamique qui était bien en cours et qui a été mise à mal par les derniers événements à Souaïda, sans oublier, et je terminerai là-dessus, que Netanyahou répondait aussi aux appels du cheikh Trifi, donc le chef de la communauté druze en Israël, qui faisait descendre les gens dans la rue, couper les rues, qui allait voir les militaires druzes israéliens dans leurs casernes pour leur dire il faut agir, etc.
On va continuer d'en parler juste après le journal de 8h avec vous, Wassim Nasr, à distance, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur de « État islamique, le fait accompli » chez Plon. Et avec vous, en studio avec nous, Dorothée Schmidt, politiste, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Très bon réveil si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur France Culture, il est 8h. Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour. Plus d'un million de signatures pour la pétition contre la loi Duplon. Les députés qui ont voté pour sont interpellés sur Internet. La mobilisation continue malgré l'adoption du texte.
Témoignage à suivre d'un ancien militaire israélien. Il dit avoir profondément honte de la situation à Gaza, vous l'entendrez.
Mal équipé, en manque d'officiers, accusé de corruption. Le point sur la brigade Anne de Kiev en Ukraine qui tente de se redresser.
À partir de cette semaine, sont transférés les narcotrafiquants les plus dangereux dans le quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil. Les convois s'organisent en secret.
Les 500 000 signatures nécessaires sont largement dépassées, mais le compteur continue de s'affoler. Près d'1 200 000 signatures déjà pour dire non à la loi Duplon. Adoptée au début du mois, elle vise à lever les contraintes au métier d'agriculteur et prévoit notamment la réintroduction sous condition de l'acétamipride, ce pesticide interdit en France mais autorisé ailleurs en Europe. Passer donc les 500 000 signatures et à condition qu'elles proviennent de 30 départements différents, la pétition peut être débattue dans l'hémicycle. Si la conférence des présidents de l'Assemblée nationale l'accepte, Yael Braun-Pivet s'est dite favorable hier et plusieurs personnalités de gauche appellent le président Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi. Quant aux députés qui ont soutenu le texte, ils sont désormais obligés de se justifier, Marion Ferrer.
Des députés interpellés massivement sur des plateformes mises en ligne par plusieurs associations de défense de l'environnement. L'une d'elles, lancée par Génération Future, a déjà recueilli plus de 300 000 messages. Et face à cet afflux, les réponses des députés se font bien plus rares, moins de 200 selon l'association. Des mails que nous avons consultés et qui relaient les mêmes éléments, à savoir que la loi Duplon a été durcie par la commission mixte paritaire. Quant à l'acétamipride, le pesticide décrié, les députés assurent qu'il s'agit d'une dérogation jusqu'en 2033 pour les filières agricoles dans l'impasse et que son usage sera mieux contrôlé. Il fallait s'y attendre, glisse le député Modem Richard Ramos qui lui a voté contre. Les électeurs sont en droit de demander des explications face aux enjeux, ajoute-t-il. Et au sein de son parti, il constate le malaise de certains collègues, ceux qui ont hésité et qui ont finalement voté pour. Mais l'élu, tout comme d'autres au sein de l'Assemblée nationale, dénonce la violence. Ces derniers jours, des permanences ont été vandalisées. Les noms des députés soutenant la loi ont ont été relayées sur les réseaux sociaux et des élus ont reçu des menaces. Ce bashing doit cesser, alerte la députée Delphine Lingman après la dégradation de sa permanence. J'ai expliqué plusieurs fois mon vote avec pédagogie, assure-t-elle, regrettant les raccourcis et le manque de dialogue entre les partis. À noter que des députés ayant voté contre la loi Duplomb cette fois ont aussi été visés.
Une mobilisation en forme de prise de conscience saluée par les défenseurs de l'environnement et les associations de malades atteints du cancer. Depuis plus de 10 ans, l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, établit un lien direct entre l'exposition aux pesticides et les cancers de l'enfant. Franck Rinchet-Girollet n'est pas étonné. Son fils a été diagnostiqué en 2018. Il a fondé avec d'autres parents d'enfants malades l'association Avenir Santé Environnement à La Rochelle. Il découvre alors une surincidence de cancer pédiatrique sur le territoire, particulièrement exposé aux pesticides.
Et durant le parcours de soins de mon fils, les médecins, les oncologues nous disent « mais l'environnement joue un rôle ». Enfin, moi, mon fils a été soigné à Bordeaux, et à Bordeaux, tous les gamins qui avaient des leucémies vivaient dans les vignes. Donc, il y a un moment, c'est une vérité qui vous frappe quand vous accompagnez un gamin en chimio. Enfin, il y a des choses qui sont marquantes. Quand je suis arrivé à Paris avec Gustave Roussy, avec mon fils, tous les gamins qui avaient des cancers osseux, ils venaient de Polynésie. Et les médecins nous disent en off dans les couloirs, bah, effectivement, on se pose des questions sur l'environnement, sur l'impact des essais nucléaires français, et les causes environnementales ne sont pas à négliger. On a assuré des veilles, notamment sur l'air, sur l'eau, sur les sols, et on a mené nos propres tests. Et l'année dernière, en 2024, on a fait des tests sur 72 enfants du territoire. Et on a prouvé que sur les 72 enfants qu'on a testés, tous étaient imprégnés aux pesticides. Et on a trouvé, sur cette cohorte, 45 molécules différentes dans les cheveux des enfants et 14 dans les urines. Je pense que la loi Duplomb a agrégé les colères. On a, nous, des gens qui commencent à bouger. On a des gens qui n'ont jamais manifesté, qui sont des parents, qui sont très très loin des causes militantes, qui nous rejoignent. En fait, on sent que dans la société, il y a un refus de ces lois qui sont des régressions sanitaires et environnementales.
Franck Rinchet-Girollet, Avenir Santé Environnement, des propos recueillis par Julien Grohard. Quand en France le combat contre la loi Duplomb prend de l'ampleur, aux États-Unis, les activistes du climat désespèrent. L'Agence de protection de l'environnement a annoncé vendredi la suppression de sa branche recherche scientifique et le licenciement de centaines de chimistes, biologistes, toxicologues et autres scientifiques après avoir nié pendant des mois toute intention de le faire. Preuve supplémentaire que l'environnement n'est pas une priorité pour Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, le président du pays a aussi supprimé plusieurs subventions aux énergies renouvelables. À Washington, Ajra Mohamed.
Welcome to Solar Solution. My name is JD.
JD Elkerd est un patron inquiet. 80% des clients de son entreprise Solar Solution ont financé leur achat de panneaux photovoltaïques grâce au crédit d'impôt de l'État de 30%. Coup de pouce qui disparaîtra dès la fin de l'année sur décision de Donald Trump.
C'est une réelle inquiétude. Ça va faire couler le marché et ça va rendre le panneau solaire moins accessible. Ce sera juste un produit de luxe pour les riches. Notre entreprise emploie plus de 80 salariés. Malheureusement, on va peut-être devoir procéder à des licenciements.
Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a détricoté plusieurs mesures environnementales prises par son prédécesseur et il a signé toute une série de décrets en faveur des énergies fossiles. Kate DeAngelis, elle travaille pour l'association Les Amis de la Terre.
Oui, je me sens un peu perdue. Je me suis engagée après l'université en 2008, quand Obama arrivait au pouvoir, et il y avait beaucoup d'espoir. Mais Donald Trump, c'est l'inverse, c'est le désespoir total. Il laisse des traces indélébiles sur son passage, et il faudra des années pour s'en remettre.
Selon un rapport d'experts, la politique actuelle de Donald Trump pourrait ajouter 7 milliards de tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère d'ici 5 ans.
Un premier convoi d'aide humanitaire est entré hier dans la ville syrienne de Soueida, dévastée la semaine dernière par des affrontements intercommunautaires. Bilan, plus de 1100 morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous continuerons à parler de la Syrie avec les invités des matins d'été juste après le journal. Il était déjà très difficile d'acheminer de l'aide dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a donné l'ordre aux résidents de Deir al-Bala dans le centre d'évacuer vers le sud de l'enclave palestinienne. Pour l'ONU,
venue, c'est un coup terrible. Par ailleurs, la défense civile à Gaza affirme que l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens hier en tuant 93 venus chercher de l'aide en différents points du territoire assiégé. L'attitude des soldats israéliens à Gaza est critiquée par certains anciens de l'armée, comme cet homme, Joe Carmel, 32 ans aujourd'hui, dont 3 de service militaire. Il a servi notamment en Cisjordanie occupée. Thibault Lefebvre a recueilli son témoignage.
Dans les rues vides du centre d'Hébron, à l'heure de la prière du midi, sous un soleil de plomb, Joël Carmel vide son sac.
En tant qu'Israélien, j'ai profondément honte quand je vois ce qui se passe.
Depuis près de 2 ans, l'ancien militaire observe désabusé les massacres de civils lors des distributions de nourriture, les bombardements sur les écoles. Mais ce qu'il touche et le révolte le plus, c'est l'attitude de soldats pourtant formés au droit de la guerre.
Tous les jours, on voit de nouvelles horreurs à Gaza. Ce qui a été une sorte de révélation pour moi, ça a été quand j'ai vu que des Palestiniens étaient utilisés comme boucliers humains. Ça montre bien la déshumanisation qui traverse la société israélienne.
Et ce niveau de déshumanisation est, selon l'ancien soldat, inédit dans l'armée.
Les sionistes religieux ont pris de plus en plus d'importance dans l'armée. C'était un de leurs objectifs depuis des années, occuper des positions majeures dans l'organigramme militaire, mais aussi dans le gouvernement et plus généralement dans la société israélienne.
Les sionistes religieux favorables à l'expulsion des Palestiniens de Gaza sont donc surreprésentés dans l'armée, et notamment parmi les près de 900 soldats morts depuis le massacre du 7 octobre.
Au moins un mort et 2 blessés à Kiev, annoncent les autorités locales ukrainiennes après des frappes russes cette nuit. L'Ukraine, où la brigade Anne de Kiev, formée et équipée par la France, a fait polémique. 30% d'abandon de poste, un matériel insuffisant et même des actes de corruption révélés récemment. Après plusieurs réformes décidées par l'état-major ukrainien, qu'en est-il aujourd'hui? Bastien Bory s'est rendu auprès de l'armée ukrainienne près de Pokrovsk.
Le canon César est en ordre de tir niché dans un bosquet. Soudain, à 2 kilomètres en arrière, la base de commandement détecte une incursion. Un groupe de soldats russes est en approche.
Feu !
Ce qui intrigue en observant le César, c'est le peu d'hommes présents pour l'opérer. Un pour ajuster les paramètres de tir, un autre pour charger les obus, une seule équipe de nuit, une seule de jour. Une fois le calme revenu, nous interrogeons le commandant sur les désertions dans ses rangs.
La seule chose que je puis vous dire, c'est que cette brigade fait son travail à merveille.
À l'origine décriée et mal équipée en matériel de guerre électronique, la 155e brigade mécanisée se reconstruit progressivement et confesse ses erreurs par la voix de son officier de presse.
Au début, on manquait vraiment d'officiers, ce qui a provoqué une vague de désertion avant même que la brigade n'arrive au combat.
Quant au cas de corruption, les enquêtes toujours en cours ciblent la haute hiérarchie. Le commandant Maximov est visé pour des pots de vin. Le lieutenant-colonel Chumsky est en détention pour avoir perçu des primes de combat fictifs. Le colonel Ryumchin a été arrêté pour avoir inclus des individus à haut risque dans la formation en France. Lui risque jusqu'à 10 ans de prison.
S'il y a des cas de corruption qui apparaissent aujourd'hui, le nouveau commandement sévit sans pitié. Cette brigade n'est pas devenue le maillon faible de l'armée ukrainienne.
Ces quelques jours passés sur le front laissent en effet le sentiment d'une brigade coordonnée. Un signal encourageant pour une armée ukrainienne en souffrance.
Reportage de Bastien Bory. Le plus gros narcotrafiquant d'Équateur, chef de l'un des principaux gangs du pays, a été extradé hier vers les États-Unis. Fito, c'est son surnom, avait été arrêté fin juin après 1 an et demi de cavale. Il s'était évadé en janvier 2024 d'une prison équatorienne où il purgeait une peine de 34 ans pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre.
En France, comme attendu Margot Delpierre, les transferts de narcotrafiquants les plus dangereux vers le quartier haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil vont commencer.
Plusieurs détenus contestent ce changement vers le Pas-de-Calais. Une dizaine de convois successifs sont prévus dans les prochaines semaines, dans le plus grand secret, afin d'éviter des drames comme celui de l'évasion de Mohamed Amra en 2024, Anne Fauquemberg.
Les convois, composés de 8 à 10 détenus, seront regroupés par région et escortés par le GIGN et les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui dépendent de l'administration pénitentiaire, avec parfois un appui aérien. Mohamed Amra, actuellement à l'isolement à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, devrait quant à lui être transféré seul dans un convoi spécifique et encore plus surveillé. Pour superviser les opérations, 2 centres opérationnels sont installés à la chancellerie et à l'état-major de la direction de la gendarmerie nationale. nationale. Les détenus, qui sont à 80% en attente de jugement, selon la place Vendôme, seront ensuite conduits dans le quartier de haute sécurité dédié à la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Ils seront en cellules individuelles, complètement isolées et prises en charge par des surveillants pénitentiaires cagoulés, des surveillants dont l'équipe a été renforcée. Ils seront environ 250 pour ces 100 narcotrafiquants. Les promenades se feront par 5 détenus avec des groupes constitués par le renseignement pénitentiaire afin d'éviter les rivalités entre gangs ou raviver d'anciennes complicités.
Et il existe en Italie un régime spécial de détention activé uniquement par le ministre de la Justice ou de l'Intérieur. Carcere duro, prison dure, littéralement, dont s'inspire aujourd'hui la France. Un régime né après la vague d'attentats mafieux au début des années 80. À Rome, Olivier Tosseri.
Le carcere duro est prévu par l'article 41 bis du code carcéral italien, introduit pour la première fois en 1992 dans le cadre de la loi dite anti-mafia. Il affiche un objectif principal, isoler les détenus les plus dangereux afin qu'ils arrêtent de chapeauter les activités criminelles depuis la prison. Ce régime de détention particulièrement sévère porte bien son nom. Il implique peu de contact avec les autres prisonniers, des restrictions de visite et de communication, une surveillance constante, des fouilles fréquentes et la limitation des activités. La vigilance est extrême à l'extérieur de la prison qui ne peut pas même être survolée par un drone. À l'intérieur, la surveillance est draconienne. Chaque lettre reçue ou envoyée par un détenu passe sous l'œil implacable des inspecteurs du bureau des censures. Une seule visite par mois au parloir est autorisée, alors que dans une prison française en moyenne, c'est 3 fois par semaine. Les conversations avec les membres de la famille y sont enregistrées. Aucun objet connecté, ni une montre ou un téléphone ne peut être introduit dans le parloir et aucun tatouage ne doit être visible parce qu'ils peuvent transmettre des messages aux détenus. Ils ne peuvent sortir prendre l'air que 4 heures par jour dans une petite cour avec seulement 3 autres détenus. Le régime carcéral dur est fréquemment contesté en Italie, où ses détracteurs critiquent la compatibilité de l'isolement strict avec le respect des droits de l'homme. En 2003, Amnesty International dénonçait l'article 41 bis comme cruel, inhumain et dégradant. En 2015, la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé pourtant compatible avec la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Actuellement, environ 700 personnes sont incarcérées dans une dizaine d'établissements de haute sécurité en Italie.
Un couvre-feu pour les moins de 16 ans entrera en vigueur ce soir à Nîmes pour au moins 2 semaines. L'arrêté vise 6 quartiers sensibles gangrénés par les trafics de stupéfiants. Tandis qu'à Béziers, des violences ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Une 50aine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre. Intervenues pour un incendie de poubelles et de voitures, un guet-apens lié à la lutte contre les stupéfiants, affirme le préfet qui s'est rendu sur place hier. Un policier a été blessé et un appartement incendié. Météo France prévoit un temps pluvieux ce matin dans une bonne partie de l'Hexagone, du soleil dans le sud. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Brest, 21 à Paris, 22 à La Rochelle, jusqu'à 25 à Marseille. 8h15, les matins d'été continuent à Street de Vilaine.
Merci Margot Delpierre pour le journal. On vous retrouve à 8h45 pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, nous continuons à nous pencher sur le bilan d'Ahmed Al-Sharaa, président par intérim de la Syrie, après une semaine de violences dans le sud du pays qui ont fait plus de 1000 morts. À 8h50, la page culture, une exposition à l'honneur, les très riches heures du duc de Berry exposées au musée Condé du château de Chantilly, un joyau du Moyen-Âge, d'habitude inaccessible au public. Mais à 8h15 sur France Culture, il est l'heure de la chronique du Grand Continent avec un nouveau chroniqueur. Bonjour Florian Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre de la rédaction du Grand Continent. Qu'allez-vous nous décrire aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas rester spectateur face au théâtre de Donald Trump.
On va voir ça dans un instant.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre religieux. Grande traversée, Hildegard de Bingen, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec le journal La Croix. Et si revenir au pays signifiait affronter ses pires démons ? De retour en Turquie, Ali retrouve une famille brisée par la terreur paternelle. Quand sa mère meurt dans des conditions suspectes, les soupçons s'accumulent. Aidé d'un énigmatique jardinier, il se lance dans une quête de vérité et de vengeance. Prime à Sundance et au Festival Reims Polar. The Things You Kill, le nouveau film d'Alireza Kadami, réalisateur des Chroniques de Téhéran. Le 23 juillet au cinéma, un film France Culture.
Les matins d'été, Astrid de Villaine.
La chronique du Grand Continent avec vous, Florian Louis, membre de la rédaction du Grand Continent et historien. Ce matin, vous nous parlez du théâtre de Donald Trump.
Oui, c'est un spectacle un peu étrange. Il nous sidère, nous dégoûte parfois, mais nous n'arrivons pas à en détourner le regard. C'est comme un de ces films d'horreur qui parvient malgré tout à nous divertir, avec cette particularité que nous en sommes les personnages. Ce spectacle a commencé il y a 6 mois, au moment où Donald Trump a fait pour la 2e fois son entrée à la Maison-Blanche. Depuis, l'actualité politique américaine est devenue de plus en plus absurde. L'intrigue change tout le temps, les personnages et leurs actions sont bizarres, le rythme est vertigineux. Depuis 6 mois, les élites du nouveau Trumpisme mettent en scène une accélération au service d'un projet de transformation radicale, d'une véritable révolution. Un chiffre permet de prendre la mesure de cette cadence hallucinante. Trump a déjà signé pas moins de 170 décrets présidentiels, les fameux executive orders. C'est plus que tous ceux signés par Biden durant l'ensemble de son mandat, plus qu'aucun autre président états-unien durant ses 6 premiers mois à la Maison-Blanche. Au Grand Continent, nous aimons bien chercher la petite bête et dans une analyse quantitative publiée dans la revue, nous montrons ce qui se cache vraiment derrière ce chiffre impressionnant. Le nombre de décrets signés par Trump est inversement proportionnel à leur taille. Les 170 décrets qu'il a publiés contiennent en moyenne 1200 mots chacun. Sous Biden, les mêmes textes en faisaient presque le double. Pire, les ordonnances de Trump 2 sont également plus brèves que celles de son premier mandat.
Et Florian, vous y voyez un symptôme ?
Nous non, mais visiblement, les plus farouches partisans du changement de régime à Washington sont assez inquiets. Dans un texte récent que nous avons traduit, contextualisé et commenté dans le Grand Continent, l'idéologue néo-réactionnaire Curtis Yarvin, très influent auprès de J.D. Vance et des jeunes loups de la Maison-Blanche, adresse un message aux Trumpistes, je le cite, « L'administration Trump a commencé à ralentir ». Et de fait, la coalition qui a fait le succès du président américain est aujourd'hui divisée. Elon Musk est en train de créer un nouveau parti. Il a d'ailleurs cherché à impliquer Curtis Yarvin avec des résultats grotesques. L'une des lignes narratives du storytelling MAGA, la révélation de ce qu'ils appellent la liste Epstein, est en train de se retourner contre Trump, exposant directement sa base électorale à l'amplification algorithmique qu'il avait lui-même provoquée.
Serait-ce, Florian, le début de la fin ?
Eh bien, Yarvin le craint et il propose de tenter le tout pour le tout. Il est persuadé que le moment est venu de franchir définitivement le Rubicon pour faire basculer par la force les États-Unis d'un régime démocratique à un régime monarchique. Son texte est un appel à peine voilé au coup d'État. Néo-réactionnaire, profondément antidémocrate, Yarvin est convaincu que la révolte trumpiste, venue d'en bas, ne fonctionnera pas. Selon lui, c'est à une petite élite qu'il revient de mener l'opération à son terme pour que la révolte se transforme en révolution, ou plutôt en contre-révolution, avec l'avènement d'un roi en Amérique.
Ça paraît absurde. Les États-Unis peuvent-ils vraiment basculer vers la monarchie ?
Avec Trump, il est difficile de faire le partage entre ce qui relève du spectacle et ce qui relève du réel. À vrai dire, on a déjà connu ça. Cette manière de faire de la politique, elle a été inventée par un passionné de théâtre d'avant-garde. Il s'appelait Vladislav Surkov et il pensait que pour obtenir ce que l'on veut, eh bien il faut faire comme au spectacle, monter une scène, y produire une réalité alternative qui, à force d'insistance et de crédibilité, finit par devenir la réalité. Surkov, le fameux mage du Kremlin, était le principal conseiller de Vladimir Poutine. Il aurait été utile de le lire pour comprendre ce qui se préparait avant l'invasion de l'Ukraine. Il est aujourd'hui urgent de se pencher sur les sources de la contre-révolution américaine. Si elle est parfois jouée d'une manière loufoque, sur une scène bizarre, dans une langue incompréhensible, elle a été pensée, théorisée et planifiée. Les textes de ces metteurs en scène ne nous sont clairement pas adressés, mais c'est précisément pour cela que nous devons les lire et apprendre à nous en servir. Trump a vraiment ralenti, le mouvement MAGA est aujourd'hui vraiment divisé. Ceux qui, il y a 6 mois, ivres de leur pouvoir, se sentaient désinhibés, semblent aujourd'hui inquiets, acculés. Eh bien, c'est peut-être le bon moment pour les arrêter.
Et peut-être que vous nous direz comment dans une prochaine chronique. Merci Florian Louis. La chronique du Grand Continent à retrouver sur l'application et le site de Radio France. Vous êtes bien sur France Culture, il est 8h21.
7h-9h, les matins d'été. Astrid de Villaine.
Nous travaillerons à la formation d'un gouvernement de transition inclusif qui reflète la diversité des hommes, des femmes et des jeunes de Syrie et à la mise en place des institutions d'une nouvelle Syrie jusqu'à ce que nous atteignions le stade des élections libres et équitables. Dans la période à venir, nous nous concentrerons sur les priorités suivantes : instaurer la paix civile et poursuivre les criminels ayant versé le sang syrien, qu'ils soient cachés à l'intérieur du pays ou qu'ils aient fui à l'étranger par le biais d'une véritable justice transitionnelle.
Un extrait de la première allocution télévisée d'Ahmed Al-Sharaa après sa prise de pouvoir en Syrie le 31 janvier 2025, ici sur TV5 Monde. Nous sommes toujours en compagnie de Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur de « État islamique, le fait accompli » chez Plon, que vous avez interviewé au mois de décembre 2024, le président par intérim de la Syrie, Ahmed Al-Sharaa. Et on vient de l'entendre et vous allez nous dire quel bilan peut-on tirer de ces 6 mois au pouvoir. Et Dorothée Schmitt également, vous êtes restée avec nous, merci beaucoup, politiste, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Qu'est-ce que ça vous fait, Wassim Nasr, de l'entendre 6 mois plus tard? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces mois qui viennent de s'écouler à l'aune de cette semaine d'affrontement dont on parle en première partie d'émission?
Bon, on peut dire qu'il y a eu beaucoup, disons, d'embûches, beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de drames hein, depuis, mais que quand même, disons, la situation aurait pu être bien pire à tous les niveaux. Évidemment, le pays est très faible. Il est maintenu à bout de bras, disons, hein, par les pays de la région, hein, les pays arabes, la Turquie, et par la communauté internationale qui a quand même tendu la main. Aux nouvelles autorités syriennes, je parle des pays européens, je parle des États-Unis, etc. Parce que tout le monde sait que remettre une pièce dans la machine de la guerre civile n'est pas du tout une bonne idée, ni pour la région, ni pour le monde. Et d'ailleurs, on y voit les indicateurs négatifs quand on voit ce qui s'est passé sur la côte avec les massacres qui ont eu lieu vis-à-vis de la communauté alaouite, et quand on voit aussi ce qui s'est passé dans le sud et les exactions qui ont eu lieu des deux côtés à cause des tensions exacerbées entre communautés. Mais j'ai aussi envie de vous dire que moi j'étais en Syrie il y a à peine, peut-être maintenant deux semaines, donc j'ai traversé le pays du nord vers l'est jusqu'à Deir ez-Zor par exemple, et je peux vous dire que les frictions au sein même de la communauté sunnite sont immenses. Entre ceux qui étaient du côté d'Assad, ceux qui étaient contre HTS, ceux qui étaient avec HTS, ce n'est pas une mince affaire. On parle de 80% de la population du pays, et il y a beaucoup de comptes aussi encore à régler au sein même de ces communautés. Par exemple, à l'heure où on parle maintenant, il y a les familles des Bédouins qui est de la ville de Souaïda, qui ont été sortis, donc on parle à peu près de 1500-2000 personnes, de la ville suivant un accord entre les autorités de Damas et les Hijri, donc le chef des milices druzes sur place. Maintenant, les soutiens de Charaa disent que il n'aurait pas dû faire ça. Il a mis un blocus militaire autour de la ville de Souaïda pour empêcher les combattants donc des clans sunnites de continuer de s'acheminer vers Souaïda pour éviter que la situation ne s'aggrave encore. Mais pour eux, ils estiment qu'il a cédé à Hijri. Vous voyez ? Et là, on parle de la majorité.
Wassim
on
Nasr,
parle des sunnites.
Wassim Nasr, quelle est exactement, quelle relation entretient-il avec les soldats ou ceux qui sont vus comme des soldats sur place et qui sont accusés d'exactions ?
Ben écoutez, c'est une armée, qui n'est pas organisée, qui n'est pas disciplinée, et qu'ils essayent de reconstruire de briques et de brocs, disons. Donc, évidemment, il y a encore des exactions par la main de certains membres des forces de l'ordre. On l'a vu sur la côte de Latakié, on l'a vu aussi à Souaïda. Et évidemment qu'il n'arrive pas à tenir ses troupes comme il se doit. Mais comme dans un pays qui sort de 14 ans de guerre civile et de 54 ans de dictature des Assad. Hier, par exemple, il a reçu le rapport concernant les exactions qui ont eu lieu sur la côte. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu tard par rapport aux attentes qu'on a. Vous voyez, quand je suis passé par Homs, là, on sait qu'à Homs, il y a des kidnappings de femmes alaouites, il y a des assassinats d'anciens du régime de manière, on va dire, toutes les semaines. Et donc, j'ai posé la question, on dit comment ça se fait que ça continue? Et on dit, il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, ils trouvent des anciens soldats du régime, des gens lambda, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, 2-3 jours plus tard, ils sont assassinés. Donc ce qu'ils essayent de faire maintenant, avant chaque anniversaire, entre guillemets, d'un massacre ou d'un autre, comme le massacre de Houla en 2012 par les milices d'Assad, ils ont été arrêtés tous les gens des villages autour, des villages alaouites, pour que ces gens-là soient pas exécutés par les habitants. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une tension bien réelle au niveau de la population, de la majorité sunnite qui a souffert pendant des années. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi il faut ménager les minorités, vous voyez. Dernier exemple, et je m'arrête là, j'étais dans un taxi, quelqu'un qui n'est pas du tout embrigadé ou quoi, il n'est pas politisé, on est passé devant deux villages, Nobul et Zahra, deux villages chiites au nord d'Alep, qui ont trouvé un accord très vite après la chute de Damas avec les clans d'Alep. Et donc ce chauffeur de taxi me dit, je ne comprends pas pourquoi il y a les militaires donc, du nouveau pouvoir en faction pour protéger ces villages. Regarde mon village en face, donc un village chiite, il est à terre. S'il n'y avait pas l'armée, on aurait fait leur compte. Et c'est un chauffeur de taxi. Donc il y a un repli. Moi qui travaille sur le mouvement djihadiste depuis plus de 15 ans, ce n'est pas du djihadisme, ce n'est pas du salafisme, c'est du repli identitaire. Au niveau des composantes de la société syrienne, y compris la majorité sunnite.
Dorothée Schmidt, est-ce que finalement c'était inévitable après ces 14 ans de guerre civile? Et quel bilan tirez-vous, vous, de ce qu'on vient d'entendre juste avant Wassim Nasr, c'est-à-dire cette volonté qu'avait le gouvernement provisoire, le président par intérim, de intégrer tout le monde? On a beaucoup parlé d'inclusivité, même au gouvernement, il y a des représentants de chaque minorité, alaouite, druze.
Oui, alors c'est ce qui lui a été reproché, c'est que dans sa première mouture de gouvernement, il n'y avait pas de druze, par exemple. Ça, c'est une des choses qui lui a été reprochée, y compris par les factions druzes qui sont pro-gouvernement, puisque, comme Wassim Nasr l'a dit tout à l'heure, les druzes sont divisés. Il y a des druzes qui sont très contre Ahmed Shara, il y en a d'autres qui veulent jouer le jeu de l'État syrien. Quand on sort d'une guerre civile qui a été une vraie boucherie, qui a fait quoi, 700 000 morts en 14 ans, on a un pays qui est complètement dévasté physiquement, donc une pauvreté extrême. Il a aussi été dit que la question druze, c'est aussi une question de misère. C'est-à-dire qu'effectivement, cette région qui tient beaucoup à son particularisme, elle s'est un peu isolée du reste du développement syrien. Et donc, elle reproche au gouvernement de ne pas faire assez aussi pour finalement éradiquer la misère. Mais le problème, c'est que la tâche, elle est herculéenne pour le gouvernement. Or, ce gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est des résistants islamistes, des djihadistes, qui aujourd'hui sont portraiturés comme résistants islamistes puisqu'ils se veulent plus nationalistes, ils disent être sortis du djihadisme, mais c'est quand même des militaires, c'est des combattants qui doivent reconstruire l'État. Et donc, on reconstruit l'État comme on a essayé de le faire d'ailleurs en Irak, à partir de la réunification des forces armées. C'est considéré comme étant la première manifestation de l'autorité étatique, la colonne vertébrale de l'autorité étatique. Or, on se rend compte que Ahmed Shara, il est minoritaire en termes quantitatifs, tout simplement. Les Kurdes, dont on n'a pas encore parlé, sont plus puissants que lui militairement. Il est à la tête de toute une coterie, effectivement, de petits mouvements. Il faut pas oublier qu'une partie des Druzes ont participé à ce dernier mouvement de reconquête. Ils ont fait la jonction avec les Druzes à Damas, hein, les Hayat Tahrir al-Sham, quand ils sont arrivés du nord de la Syrie.
Pour la chute de Bachar al-Assad.
Donc il y a cette espèce d'hyperdivision. Et ce qui peut nous inquiéter aujourd'hui, quand on a des retours à des dynamiques ou en tout cas des états sociaux un peu anomiques comme ça, à nouveau, qui vont entretenir un climat de guerre civile larvée, c'est que on passe de ces mouvements de résistance à des milices. Et c'est la milicianisation qui nous inquiète, parce que c'est vraiment des phénomènes qu'on a vus très clairement, aussi bien dans la guerre civile libanaise, avant même son déclenchement, en Irak, après l'intervention américaine. C'est les différentes communautés qui considèrent qu'elles doivent s'armer pour assurer leur propre sécurité. Et c'est ça aussi aujourd'hui le sujet avec les Druzes, c'est qu'en fait, ils estiment que le gouvernement central n'a pas fait assez pour assurer leur sécurité.
Wassim Nasr, est-ce qu'il y a un risque, d'après ce que vous avez vu sur le terrain et vos informations, d'une résurgence de l'État islamique?
Je vais vous répondre, mais juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Madame Schmidt.
Allez-y.
En fait, il y a un ministre druze dans le gouvernement, c'est le ministre de l'Agriculture.
Dans le deuxième gouvernement, dans la nouvelle mouture.
Oui. Mais c'est un ministre druze et qui est de Souaïda. Et quand le gouvernement a été annoncé, il y a un chef de clan sunnite, donc des bédouins de Souaïda, qui a invectivé le président syrien en public, à la télévision, en lui disant « On a été marginalisé sous Assad, on est marginalisé avec vous aussi. » Donc là, Shara lui répond « Vous l'êtes pas, il y a un ministre de chez vous dans le gouvernement. » Sauf que le ministre est druze. Donc ça rappelle aussi ce que je vous disais de l'incompréhension de ceux qui estiment qu'ils ont gagné cette guerre et qui ne comprennent pas pourquoi Shara, entre guillemets bien sûr, à leurs yeux, fait des cadeaux aux autres. Pour parler de l'État islamique, j'ai traversé la Badia. Donc la Badia, c'est le désert syrien entre Palmyre, la ville très connue, et Deir ez-Zor, l'Euphrate. C'est le territoire d'activité de l'État islamique. Il y a une route. Très mauvais état. Il y a des tronçons qu'on a traversés à 160 km/h. Juste pour vous dire que l'État islamique est encore là. Il y a des attaques. Hier, il y a une attaque contre les Kurdes du YPG. Là, c'est au nord de l'Euphrate. Mais par exemple, une des routes qu'on a décidé de ne pas prendre dans cette badia, il y a eu un faux checkpoint de l'État islamique et 3 membres des forces de sécurité ont été exécutés. Pas quand j'y étais, hein, je sais pas de dramatiser, mais quelques jours plus tard. Donc, ils sont là. Le fait est qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la badia, le désert, pour rejoindre les villes au lendemain de la chute d'Assad, pour multiples raisons. Il y en a qui sont fatigués, et la vie dans le désert est difficile. D'autres, pour éviter les frappes de la coalition, parce qu'on n'en parle pas, mais la coalition, donc les Américains, et même nous, Français, avions frappé dans la badia après la chute d'Assad, et d'autres préparent des attaques, préparent des attentats, comme l'attentat qu'on a vu dans l'église Mariès, Saint-Élie, à Damas, donc qui a eu lieu le jour où je suis arrivé à Damas. Vous voyez? Et donc là, c'était un attentat fomenté par des anciens de l'État islamique, avec un apport de kamikazes, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, d'origine irakienne, mais c'était des gamins, des adolescents, qui ont grandi dans les camps où sont stockés pas mal d'enfants, de djihadistes, dans les zones tenues par les forces kurdes. Donc l'État islamique est là, il n'a pas la capacité de faire tomber Charar, mais il a la capacité, évidemment, de faire des attentats et de troubler ce chemin vers une paix ou une stabilisation, appelons ça comme on veut.
Comment se positionne le président par intérim al-Charar face à l'État islamique, lui qui a eu des liens par le passé avec eux?
Ah, les liens, oui. Il a eu des liens, effectivement, avec eux, donc pendant sa période irakienne. Sauf que dès qu'il est rentré en Syrie, donc en 2012, les frictions n'ont pas tardé. En 2013, je peux faire tout l'historique de leur relation, mais bon, et la relation est devenue très conflictuelle, et juste, ça va être très parlant. C'est à cause d'Ahmad al-Charar que la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda a éclaté dans le monde entier, en démarrant dans l'Est syrien, la zone où j'étais, là, dont je vous parlais, en 2013. Donc c'est Charar, ces hommes qui ont tué un des califes dans les années passées, qui avait trouvé refuge à Idlib, et la guerre est ouverte entre les deux groupes depuis 2013. La même sorte type de conflit ou de guerre est ouverte avec Al-Qaïda depuis 2016. Donc la mouvance djihadiste, en gros, en veut beaucoup à Ahmad al-Charar. L'État islamique fait communiquer sur communiquer en le traitant d'apostat, de traître, de mécréant. On vous a dit, on vous a prévenu qu'il allait faire ça en s'adressant à la base, disons, de recrutement de djihadistes. Donc c'est un grand défi pour lui en interne aussi, parce que ça peut phagocyter ses propres troupes. Mais bon, pas encore, en tout cas. Mais ça peut arriver.
Dorothée Schmidt, vous évoquiez tout à l'heure ce qu'on appelle parfois la mosaïque syrienne, toutes ces communautés qui ont été si divisées. Est-ce qu'elles peuvent se réconcilier? Est-ce que ce pouvoir peut y arriver?
Alors ça, c'est vraiment... C'est à peu près comme quand vous vous posez la question de qui va arriver à faire la paix au Moyen-Orient de façon plus générale. Ce qui me semble important, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est de l'apport des puissances extérieures qui, comme l'a dit tout à l'heure Wassim Nas, n'ont aucun intérêt à ce que la guerre civile recommence en Syrie. Et donc les nouveaux parrains de ce régime, et là c'est extrêmement étonnant parce qu'on a une réconciliation du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, des États-Unis qui sont amenés aussi à devenir un soutien de ce gouvernement syrien par leur partenaire saoudien et leur partenaire turc. Un petit point sur la Turquie qui donne une idée aussi de la menace de l'État islamique, c'est que on a eu une annonce d'une arrestation de 150 personnes liées à la mouvance de l'EI en Turquie hier. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une grande agitation, une grande inquiétude de ces partenaires qui se penchent là sur le berceau de cette nouvelle Syrie, sur l'idée qu'on pourrait avoir un retour d'une nouvelle fraction djihadiste hyper violente contre laquelle tous sont alliés pour le coup. Mais ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que de voir les États-Unis se rallier à cette idée d'une Syrie unitaire qu'en fait à la fois les Saoudiens et les Turcs sont en train de leur vendre. Refus de fédéralisme, une refus d'autonomie qui serait trop forte. Et vous savez que l'ambassadeur actuel des États-Unis en Turquie a été nommé envoyé spécial pour la Syrie. Donc lui, il fait la navette dans toute la région, mais au départ, il est posté à Ankara. Donc il est très clair qu'il y a aussi des messages qui viennent à la fois des Saoudiens et des Turcs qui s'expriment par la voix d'Ahmed Eşara quand il fait des communiqués officiels.
Donc pour vous, tout ce qui vient de se passer au cours de ces derniers mois et surtout cette dernière semaine, Dorothée Schmidt n'entrave pas du tout la normalisation de la Syrie au sein de la communauté internationale ?
J'ai l'impression que ce qui est perçu aujourd'hui, c'est plutôt que Ahmed Eşara a besoin d'aide pour reconstituer cette Syrie unitaire dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des rumeurs qui font état d'un très grand agacement des États-Unis sur les frappes israéliennes en Syrie. On a l'idée que le prince héritier Mohammed Ben Salman voulait absolument que les États-Unis autorisent Ahmed Eşara à déployer ses troupes à Souaïda et que donc ça a été assez compliqué de se mettre d'accord sur le retrait des forces syriennes. Donc cette négociation, elle se fait pas simplement entre Ahmed Eşara et Netanyahou ou entre Ahmed Eşara et ses factions et les communautés. On a vraiment un niveau hyper micro qui est celui que décrit d'ailleurs très très bien Wassim en expliquant comment, en se promenant de lieu en lieu en Syrie, de 10 km en 10 km, on rencontre des animosités différentes et des risques d'éclatement différents. Et on a au-dessus cette divergence, je dirais, entre le communiqué de Netanyahou qui dit « voilà, ça y est, on a fait respecter la force et on a dit que ça allait pas se passer comme ça ». Et de l'autre côté, un communiqué turc qui nous dit « nous, on a passé notre temps à discuter avec les Saoudiens, les Qataris, les Américains, les Jordaniens, les Égyptiens et on a un communiqué commun des Arabes et des Turcs pour dire que il faut surveiller la Syrie comme le lait sur le feu ».
D'un mot pour finir, Dorothée Schmidt, qui sont ces 128 000 déplacés ? Dans le sud.
Desquels déplacés ? De quels déplacés ?
De Souaïda.
Bah écoutez, on a aujourd'hui des Bédouins qui sont en train de quitter la zone. Et la vraie question qu'on est absolument légitime à se poser tous aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ambiance de telle facilité de nettoyage ethnique dans la région qu'on est au moins sur une réorganisation sociale qui qui matérialise ces antagonismes qui sont en train de se créer. Et ça, c'est très problématique parce que jusqu'à présent, précisément les communautés druzes, elles étaient installées avec les autres, y compris au Liban, où elles sont dans le chouf avec à la fois des chrétiens libanais, mais aussi à côté de sunnites. Et donc là, on part vers des séparations ethniques qui, évidemment, vont rendre beaucoup plus compliquée la gestion du pays par la suite.
Merci infiniment, Dorothée Schmidt, politiste, responsable du programme Turc et Moyen-Orient de l'IFRI, d'être venu ce matin sur France Culture, et Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur de État islamique, Le fait accompli, aux éditions Plomb.